Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler par exemple des sorties cinéma de demain et des 15 ans des Sims. Vous ne savez pas ce que sont les Sims? Eh bien justement, restez avec nous. Notre info média sera consacrée à la Chine. Bien avant la crise du coronavirus, le pays comptait et compte ouvertement devenir la première puissance économique mondiale et doubler les États-Unis en 2049. Ce sera le centenaire. Avec quelle méthode? Réponse avec Walid Berissoul, vous connaissez, c'est un ancien de la Maison Europe 1, il signe un documentaire passionnant ce soir sur France 5. Nos invités ensuite, Stéphane Rothenberg, l'une des stars de M6, il a une double actualité Top Chef qui redémarre demain avec des recettes incroyables, et Pékin Express, ce sera mardi 25, là aussi avec des recettes tout aussi incroyables et un truc de dingue. Pékin Express, vous savez quoi, est allé à Pékin.
Ouais,
c'est bien le moment. Mais oui. Non mais normalement ils y vont jamais. Ben, le Paris-Dakar va pas au Dakar. C'était la voix délicieuse de Céline Dacosta et de Cyril Lacaillard que vous entendez. Enfin, la sulfureuse soprano Patricia Petitbon pour un nouvel album, L'amour, la mort, la mer, c'est le titre. Projet musical qui ne ressemble à rien de connu, ça nous plaît. Elle sera dans ce studio avant de partir pour rien moins que la Scala de Milan. Hélène Manarino nous fera son portrait inattendu, sauf qu'Hélène Manarino, le lendemain, elle sera à Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline, je vous ai déjà salué.
Oui, bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Cyril, je vous ai déjà salué.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme chaque matin, vous commencez votre journal des médias, Cyril. Qu'est-ce que vous avez en stock au programme?
Ce matin, nous parlons de petites amendes entre meilleurs ennemis, de l'appétit de Nicolas de Taverneau, du retour d'un embrouilleur, de la rencontre Interville-Mickey et de nos faibles chances à l'Eurovision.
Voilà, je m'excuse pour ce pléonasme. Si c'est en stock, c'est que c'est au programme. Si c'est au programme, c'est que c'est en stock. Mais Cyril, on va d'abord démarrer avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision?
Hier soir, ils ont principalement regardé France 2 et sa série Mirage. 3 400 000 téléspectateurs étaient devant la 2. C'est largement devant TF1 et sa série H24. Il y avait presque 2 590 000 et ils sont au touche-touche avec M6 qui est en troisième position, 2 534 000. Vous voyez, ça, on est vraiment pas loin entre TF1 et M6.
Et une fois encore, on a porté chance à la série Mirage puisque la comédienne était avec nous.
Voilà, c'est ça. Venez à Culture Média.
Viendez,
et vous ferez de bonnes audiences. Et plusieurs millions à vous donner ce matin. Le très bon score de Secret d'Histoire sur France 3, 1 800 000 téléspectateurs. Également, un autre film cette fois-ci sur W9, Divergente 2, L'Insurrection, 1 334 000 téléspectateurs, et Arte, le film célèbre, Rio Grande, 1 300 000 téléspectateurs.
La comédienne de Mirage, c'est évidemment Marie-Josée Croze qui était notre invitée. Cyril, place maintenant aux médias. On commence par les relations toujours difficiles entre le CSA et C8.
On sait qu'entre la chaîne du groupe Canal+, et le régulateur de l'audiovisuel, les conflits sont nombreux. Eh bien, voici un nouveau sujet de dispute. Le CSA a condamné C8 à une amende de 10 000 euros pour avoir diffusé des images de Karine Ferry seins nus durant l'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste », une information révélée par nos confrères de la lettre A. À l'époque, TF1 ou Officie, Karine Ferry avait fait part de son indignation concernant la diffusion de ces photos. Des clichés qui avaient d'ailleurs déjà valu au magazine Playboy d'être condamnés lors de leur première diffusion. L'avocat de Karine Ferry, lui, avait estimé que le fait de les montrer dans TPMP avait pour but de nuire à l'animatrice. Alors cette diffusion aura coûté 2 condamnations à C8. D'abord une amende de 12 000 euros par la justice et donc maintenant à 10 000 euros par le CSA.
Dans 3 ans, la Coupe du Monde de rugby va se jouer en France et cela aiguise l'appétit des diffuseurs.
C'est forcément un événement qui va attirer les foules dans les stades mais aussi devant les écrans. Il faut donc se préparer à une bataille rangée entre les chaînes pour savoir qui récoltera le gros lot des droits de cette compétition. Et surprise, M6 a décidé de se positionner pour cette Coupe du Monde alors que jusqu'ici la chaîne n'a jamais proposé de rugby sur ses antennes.
Oui, en général, ça se joue entre la 2 diffuseurs historique et TF1.
Voilà, absolument. En fait, il y a la 2 qui diffuse le tournoi destination et TF1 qui retransmet en général les grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde de rugby. Mais voilà, Nicolas de Taverneau a flairé le bon coup. Voici ce qu'il disait à ce sujet hier sur BFM Business.
Nous attendons que l'appel à candidature soit lancé, puisqu'il n'est pas encore lancé cet appel à candidature. Donc nous avons écrit à la Fédération internationale de rugby pour savoir quand est-ce qu'il serait lancé. Nous avons, on on a eu la réponse que ça serait à l'automne, et donc nous serons certainement candidats à l'automne sur au moins un des lots qui seront proposés pour cette Coupe du Monde.
Alors je le disais, voir M6 se positionner sur du rugby, c'est inédit. Pour nous éclairer, j'ai demandé à Vincent Chaudel, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business, de nous dire comment il analysait ce choix stratégique. On l'écoute.
Aller sur ce type d'appel d'offres, c'est effectivement un choix stratégique maintenant pour le groupe M6. On est assez loin du 0% foot de 1998. Désormais, la petite chaîne qui monte a compris ou qui montait a compris qu'elle pouvait être le vrai concurrent de TF1 si et seulement si elle avait une capacité à aller décrocher des top 100, voire des top 20, peut-être même des top 10 au niveau des audiences. C'est possible avec des matchs des équipes de France, de foot ou de rugby. Et donc, ainsi, avoir une vraie proposition alternative auprès des annonceurs, voilà tout l'enjeu pour M6.
M6 semble donc bel et bien lancé. Reste maintenant à savoir avec qui. TF1 n'est pas encore officiellement déclaré, mais il y a de fortes chances que le groupe dirigé par Gilles Pélisson soit aussi de la partie. La Une est le traditionnel diffuseur des grandes compétitions internationales de rugby, on le disait. Et puis, bien sûr, il faudra également compter sur des chaînes payantes, souvent les plus fortes sur les droits sportifs. Vincent Chaudel nous explique comment chacun peut tirer son épingle du jeu.
Si les télés en clair n'ont pas intérêt à diffuser l'ensemble des compétitions, elles peuvent avoir intérêt à acheter ces droits et après les revendre pour partie, ou à s'associer avec des télés à péage dans cette acquisition et cette répartition des droits. En tout cas, elles vont garder ou elles vont chercher à avoir les principaux matchs, et notamment les matchs des équipes de France. Voilà pourquoi on peut voir des associations comme Bein Sport ou Canal+, avec un TF1 ou un M6 pour des droits comme la Coupe du Monde de rugby. C'est en aucun cas étonnant, et c'est certainement le modèle qui va se produire et se reproduire.
Alors, quelles chaînes seront les grandes gagnantes de ce futur appel d'offres? On en reparle à l'automne prochain, à ce micro, bien sûr.
Deux infos dans la même phrase. Un personnage de télévision qui s'apprête à faire son retour.
Son nom est Lambrouille. François Lambrouille.
C'est quoi votre nom?
François.
François quoi?
Lambrouille.
François Lambrouille.
Oui, et celui que vous venez d'entendre, c'est donc François Lambrouille, alias François Damiens, qui s'était révélé dans ce personnage odieux, grossier, misogyne et j'en passe. Alors, les fans vont être ravis de l'apprendre. Le comédien va reprendre son rôle de François Lambrouille. C'est lui-même qui l'a annoncé lors de la promo de son nouveau film, Le Prince Oublié. Damiens a confié être déjà en repérage pour ses nouvelles caméras cachées, qui cette fois ne se dérouleront pas en Belgique, mais en France. Reste que ce tournage s'annonce plus complexe qu'avant, depuis les années de gloire de ce François Lambrouille. François Damiens a énormément gagné en notoriété et c'est donc plus difficile de ne pas être reconnu. Mais comme il le dit lui-même, c'est quand c'est compliqué que c'est marrant. En tout cas, nous, on a hâte de voir le résultat.
Et puis Cyril, on le sait, Interville va bientôt revenir et on sait désormais où l'émission sera tournée.
C'est le Parisien qui nous l'apprend. Interville, nouvelle version, sera tournée.
Non.
Alors pas dans l'attraction, mais
bon.
Cette chanson, je le sais, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. It's a Small World, une des grandes signatures du parc Disney. Et c'est justement là que le Parisien nous le révèle, qu'Interville sera désormais tournée à Disneyland Paris. Selon le Parisien, 4 émissions, dont une finale, seront tournées dans le parc d'attractions situé en région parisienne. Pas de balade en province donc pour cette Interville produite par Nagui. Et pas plus de vachettes, on le sait. Nagui ne veut pas mettre en scène ces animaux emblématiques de l'émission. Le producteur, qui est un militant de la cause animale, a décidé de s'en passer pour cette nouvelle mouture. Les tournages d'Interville Cru 2020 se dérouleront donc avec Mickey, mais sans animaux, courant avril.
Et est-ce qu'on sait déjà qui va payer qui? Est-ce que France 2 va payer Disney pour profiter des lieux, ou est-ce que Disney va payer France 2 pour faire connaître sa marque?
Je pense que tout ça est un accord, un gentleman agreement, un win-win, vous pensez pas?
D'accord, je sais pas, justement, je me demandais, il y a 3 possibilités. On va enquêter.
On va enquêter.
On vous dira ça en septembre.
On est lancé.
L'Eurovision, mais non, c'est vous qui l'avez dit, c'est
mais
pour
oui,
ça,
je sais,
continue
je sais,
sur la blague. L'Eurovision n'a pas encore commencé, Cyril, que déjà les chances françaises semble compromise.
À en croire les bookmakers, nous n'avons que 2 chances sur 100 seulement de remporter le concours de chansons européens. On va pas se mentir, hein, c'est maigre. You are the best in me. Au fond de moi, j'ai compris. La chanson de Tom Leb, The Best In Me, qui représentera la France le 16 mai à Rotterdam, ne semble pas vraiment avoir convaincu les parieurs. Sur le site Eurovision World, son morceau ne se place qu'en 21e position. Un pronostic qui, s'il s'avérait exact, nous ferait encore reculer par rapport au classement de Bilal Hassani, qui avait dû se contenter de la 16e place l'an dernier.
Ouais, vous voulez connaître mon avis sur les pronostics ?
Oui, si vous voulez.
La
oui.
veille de l'élection, le New York Times donnait 60% de chances de victoire à Hillary Clinton.
Ah, c'est, et
c'est Trump
Times,
qui a été élu. Tout le monde. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière.
À demain.
99% de chances que vous soyez à la demain.
Ouais,
formidable. À suivre l'infomédia du jour avec un documentaire sur la Chine qui ne cache plus ses ambitions de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. Chine, OPA sur le monde, un documentaire réalisé par notre invité Walid Berissoul. Et on en parle avec lui dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
En pleine épidémie de coronavirus, elle est au cœur de l'actualité, mais ce soir sur France 5, il ne sera pas question que de la propagation d'un virus, il sera question de la façon dont la Chine conquiert le monde. Le pays compte devenir la première puissance économique mondiale en détrônant les États-Unis en 2049, ce sera le centenaire. Comment la Chine moderne compte-t-elle s'y prendre ? Réponse ce soir dans un doc réalisé par Walid Berissoul à partir de 20h50 sur France 5. Bonjour Walid Berissoul.
Bonjour.
Une soirée spéciale de C'est dans l'air présentée par Caroline Roux et le documentaire sera exceptionnellement suivi d'une édition en direct afin de revenir évidemment sur l'actu en Chine autour du coronavirus. Vous avez été rattrapé par l'actualité. Quand avez-vous tourné ce documentaire ? Accessoirement, êtes-vous en bonne santé ? Avez-vous pris votre température avant d'entrer dans ce studio ?
J'ai pas pris ma température ce matin, j'ai un petit rhume, mais ça va, a priori, c'est pas le coronavirus.
Blague à part,
j'étais en Chine en septembre.
D'accord.
Fin septembre 2019, on était 10 jours avant l'anniversaire, les 70 ans, de la fondation de la Chine populaire par Mao. Donc on était dans une ambiance de ferveur patriotique assez forte, avec dans toutes les villes des drapeaux partout, évidemment. Je me souviens notamment à Chongqing, qui est une ville assez impressionnante, une ville de 35 millions d'habitants, avec une skyline sur laquelle il y avait des vidéos de propagande de l'armée rouge, enfin de l'armée de populaire de libération, en boucle comme ça le soir. Enfin voilà, on était vraiment dans cette ambiance-là de on est à 70 ans de la fondation du régime de Mao, et dans 30 ans, on se projette dans... Voilà, on vous donne rendez-vous sur la même place Tiananmen pour célébrer le fait que la Chine franchisse la première puissance mondiale.
Parce que c'est ça qui est très étonnant pour qui ne connaît pas la Chine, comme c'est mon cas, c'est que c'est à la fois un pays extrêmement moderne, capitalistique et communiste à l'ancienne, avec de la propagande quasiment, je ne vais pas te donner l'adjectif, mais quasiment à l'ancienne. Dans votre documentaire, vous montrez comment le pays étend peu à peu son pouvoir partout dans le monde. Au début, il y a cette musique angoissante, anxiogène, et cette question, l'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée ? Pourquoi faudrait-il arrêter cette expansion, Walid Berissoul ?
En fait, ce n'est pas tellement une question d'arrêter cette expansion, c'est plutôt une question, c'est ça qu'on a voulu montrer dans le documentaire, de savoir qui on a en face, en fait, à qui on a affaire, et de regarder un peu la Chine en face pour qu'en fait, finalement, pour finalement nous interroger sur qui nous sommes, nous, oui. Européens, par exemple. C'est-à-dire, quand là, on se pose des questions sur la 5G, le déploiement de la 5G dans les pays d'Europe, c'est une question, finalement, derrière ça, il y a qui y a derrière, quoi. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a permis de comprendre, en fait, à travers ce documentaire, comment la Chine grandit et nous aide à nous définir nous-mêmes.
Vous n'avez pas répondu à ma question, qui est excellente puisqu'elle est la vôtre. L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée ? Ou est-ce que non, c'est perdu ?
Il y a quelque chose d'assez inéluctable que beaucoup d'experts disent, c'est que la Chine franchira, dépassera les États-Unis, son PIB en fait, de manière très économique, très statistique, dépassera celui des États-Unis probablement avant 2049, dans les 20 prochaines années. C'est quelque chose finalement d'assez mécanique, puisque voilà, la production chinoise, ses exportations, toute son industrie font que ça franchira forcément cette étape-là.
Ce qui est paradoxal et ce qui est très bien montré dans votre doc, c'est que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont œuvré pour le développement de la Chine à l'époque de Clinton. Ils s'en mordent les doigts, c'est l'arroseur arrosé.
Oui, mais en même temps, ils se sont dit dans les années 80, quand Deng Xiaoping a voulu ouvrir l'économie chinoise, ils se sont dit, mais quel formidable terrain d'opportunité. Il y a un pays d'un milliard et demi d'habitants, un marché colossal, ils demandent qu'à consommer, qu'à recevoir nos entreprises, nos marques, notre Coca-Cola, notre Microsoft, etc. Je ne vais pas faire de publicité, mais voilà,
Bien sûr.
Nos réseaux sociaux aujourd'hui encore, je veux dire, Apple, mais, Google, Facebook cherchent à s'implanter en Chine.
Mais ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire doubler et que maintenant la 5G, c'est plus avancé en Chine qu'aux États-Unis.
Eh bien voilà, exactement, puisque en fait, le Parti communiste chinois, en accueillant les entreprises américaines, mais aussi occidentales, hein, françaises notamment, ont posé des conditions qui, au départ, étaient vues par les dirigeants occidentaux comme des conditions acceptables.
Les transferts de technologie.
Notamment les transferts de technologie, mais aussi le fait que le Parti communiste chinois, qui a un œil dans chaque entreprise chinoise, peut aussi avoir un œil dans des entreprises étrangères qui sont implantées en Chine. Le fait aussi, par exemple, qu'un employé chinois ait le droit de démissionner au bout de 6 mois, évidemment en emmenant avec lui un certain nombre de savoir-faire ou de secrets industriels dans l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une entreprise chinoise. Donc en fait, c'était des règles qui étaient à l'époque acceptées par... Les dirigeants occidentaux et les dirigeants d'entreprise en disant bon, de toute façon la Chine elle a tellement de retard à rattraper que le temps qu'ils arrivent à haut niveau, nous on aura avancé encore plus. Et en fait ils n'ont pas vu que la Chine a été beaucoup plus vite, surtout dans la dernière décennie, hein, dans les années 2010-2020, que ce qu'ils pensaient.
Qu'est-ce que l'arrivée de Donald Trump a changé dans les rapports entre les États-Unis et la Chine, si tant est que ça ait changé quelque chose?
Bah écoutez, d'un seul coup effectivement il est arrivé, il a dit voilà on arrête ça, on leur fait la guerre commerciale. C'est lui qui l'a initié en réalité, en fait. Il a décidé.
Et ça a changé quelque chose ou ce ne sont que des mots?
C'est pas que des mots, parce qu'ils ont quand même eu, ils ont quand même souffert. Enfin, les deux pays en ont souffert. Hein. C'est-à-dire que on a vu les exploitations de soja aux États-Unis qui ont souffert des embargos en contre, parce que les Chinois ont quand même, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ils ont imposé exactement les mêmes tarifs commerciaux que les États-Unis leur ont imposé pour leurs propres exportations. Mais en fait, les deux pays ont souffert. Les Chinois ont aussi souffert, mais ils l'ont moins dit. Mais c'est vrai que ça les a quand même un peu tapé au portefeuille, d'autant que la croissance chinoise est en ralentissement avant même le début de la guerre commerciale de Trump. Donc Trump, quand il initie cette guerre commerciale un peu après son élection, il sait exactement quels effets ça pourra avoir.
La croissance chinoise est en baisse, mais quand même, il faut le dire, en 40 ans, 800 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et vous montrez quelque chose, j'en parlais au début, du paradoxe de ce pays qui est à la fois capitaliste et communiste. Le parti communiste tient une place considérable dans le pays, c'est un euphémisme, à grande échelle et à petite échelle, comme dans ce comité local du PC. Écoutez cet extrait.
Ici, comme tous les 15 jours, la séance commence par un petit rappel des valeurs essentielles.
Vous savez, la France prétend être un pays démocratique, comme les autres pays occidentaux. Ils critiquent notre régime, ils trouvent notre système mauvais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le système chinois a beaucoup d'avantages. Notre système nous permet de réaliser de grands objectifs.
Une sorte de coaching d'entreprise animé par le chef du comité local, un certain Monsieur Mao. Assis à sa gauche, Monsieur Zhu écoute religieusement. Lui-même est devenu membre du parti il y a quelques années. Dans sa propagande, le parti cherche à mettre en avant une nouvelle figure héroïque, celle du start-upper.
Le communisme, c'est un moyen pour la Chine de conquérir le monde?
Entre autres. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le capitalisme d'une certaine façon, puisque voilà, les capitaux privés affluent, que les choses se font de cette manière-là, même si les entreprises sont quand même extrêmement étatisées et qu'en réalité une entreprise privée en Chine, ça n'existe pas.
Ouais, ils sont hyper connectés les Chinois, 800 millions d'internautes utilisent des smartphones et ils sont beaucoup plus avancés que nous, ils n'ont plus de porte-monnaie, enfin certains, plus de badges dans les entreprises. Tout se fait virtuellement ou via la reconnaissance faciale. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné?
En fait, c'est ça, moi, qui m'a étonné. C'est d'une certaine manière, déjà le fait que les choses sont allées extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en Chine, en fait, la carte bancaire, l'étape de la carte bancaire n'a pas eu lieu. Ils sont passés directement du paiement liquide. En liquide au paiement par ces applications comme WeChat ou comme Alipay, la filiale d'Alibaba, l'Amazon chinois, qui permettent de payer avec des QR codes, en fait, des petits flash codes. Et effectivement, l'étape d'après, qui commence déjà à arriver dans certains restaurants, dans certains lieux de consommation, c'est la reconnaissance faciale, le paiement par... Voilà, vous arrivez avec votre visage et vous scannez et vous rentrez, vous payez votre addition ou votre place de cinéma.
D'accord.
Voilà.
Et ça fait quel effet?
Eh ben,
moi, je vais vous dire, ça me fait peur. En un mot.
En un mot, en fait, je trouve ça impressionnant dans le sens où on les sent. Nous, on est en Europe, on est très méfiants par rapport à la technologie. Alors oui, en un mot, ça va être difficile à dire.
Vous savez quoi? Vous restez avec nous. Futuriste. On fera plein de mots futuristes avec Walid Berissoul.
Oui, Walid Berissoul qui signe un documentaire Chine, OPA sur le monde. Documentaire diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Et on continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Alors qu'elle vient de fêter ses 70 ans d'existence, la Chine communiste ne cache plus ses ambitions de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis. Walid Berissoul est notre invité, il a réalisé un documentaire sur ce sujet qui s'appelle Chine, OPA sur le monde, qui est diffusé ce soir sur France 5, Philippe.
Vous racontez que le dirigeant Xi Jinping a fait développer une application pour smartphone pour destination des 90 millions de membres du Parti communiste. Il y a quoi dans cette appli?
Dans cette application, il y a la pensée Xi Jinping. Jinping. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des articles, il y a des vidéos de Xi Jinping en visite dans tel ou tel endroit de Chine. Et tous les jours, en fait, les membres du Parti communiste sont censés apprendre, lire, écouter, regarder la pensée de leurs dirigeants. Et tout ça est sanctionné d'ailleurs par des notes,
ouais,
par des points. C'est-à-dire, on lit un article, on gagne un point. On regarde une vidéo, on gagne trois points. Il y a des quiz aussi sur, alors à la fois avec de la culture générale sur quel est le plus long fleuve de Chine ou je sais pas la longueur de la muraille de Chine, mais aussi sur évidemment les directives répétées de Xi Jinping et de la tête du Parti communiste.
Et on peut même gagner des cadeaux, ce que vous montrez. Oui. Une application qui est en fait un moyen de surveiller la population, c'est ce qu'explique Valérie Niquet. Elle est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Une ONG allemande a récemment découvert la présence d'un mouchard niché dans l'application Xi Jinping. Grâce à ce mouchard, le parti peut avoir accès aux autres applications fréquemment ouvertes par M. Mao, y compris des applications censées être censurées, comme Facebook ou WhatsApp. Le parti peut aussi espionner toutes ces conversations privées.
Si on est membre du Parti communiste et qu'on est mal noté parce que, par exemple, on a une pratique religieuse ou ce genre de choses, où on ne lit pas assez les œuvres du président Xi Jinping, où on manque d'enthousiasme quand on les lit, il y a tout ce système, par exemple, d'arrestation qui peut durer pendant des mois, si ce n'est plus, où les gens sont hors de tout système légal et peuvent disparaître ou réapparaître s'ils cèdent. Et tout ceci est fondée également sur la surveillance politique.
C'est ce qu'on comprend quand on n'est pas d'accord avec le régime, on est emprisonné, ce qui arrive notamment aux membres de la communauté ouïghour. Quelles infos vous avez eues à ce sujet ?
Sur les Ouïghours,
oui. Bah,
ce qu'on a vu par la suite aussi, surtout parce que les choses sont beaucoup sorties à ce moment-là, au moment de notre retour de Chine, c'est le chiffre assez effrayant donné par les Nations Unies sur le nombre de Ouïghours, entre 1 et 2 millions internés dans des camps. Et effectivement, c'est ce qu'explique d'ailleurs dans le documentaire un peu plus tard François Bougon, qui raconte qu'une fois qu'il y a ce contrôle par notamment le numérique, l'étape d'après, ça peut être carrément l'internement d'une partie de la population, des Ouïghours notamment, pour finalement qu'ils soient un peu plus communistes et un peu moins musulmans.
Il y a deux versants dans votre documentaire. Il y a la Chine en Chine et puis la Chine à l'extérieur de la Chine. Le pays s'est, oui, lancé dans un projet monumental, les nouvelles routes de la soie, dans lequel plus de 1000 milliards de dollars, tu en parles en dollars, ont été investis. Explication.
Officiellement appelée Initiative Ceinture et Route, la ceinture, c'est un réseau tentaculaire de lignes ferroviaires, de routes, de pipelines qui relie l'Empire du Milieu à l'Europe. La route, c'est un ensemble de liaisons maritimes qui connecte la Chine aux principaux ports de la planète. Une myriade d'investissements chinois dans près de 70 pays où vivent 4,5 milliards d'habitants, la moitié de la population mondiale connectée d'une manière ou d'une autre à la Chine.
Cette myriade d'investissements, ça vise quel but selon les dirigeants ? C'est que le monde ne puisse plus se passer de la Chine, c'est ça l'idée ?
Oui. C'est ça, exactement. Et on l'a redit, le chiffre est assez impressionnant. 4 milliards d'habitants, finalement, dans tous les pays qui sont connectés à la Chine d'une manière ou d'une autre. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de continents. Et effectivement, c'est une façon pour la Chine aussi de remonter toute la richesse dont elle a besoin pour son développement futur.
Des grands pays, des petits pays, vous êtes rendu dans les territoires de toutes les échelles sociales. Par exemple, en Éthiopie, vous êtes allé dans une usine qui fabrique des chaussures. Le client est américain, le fabricant est chinois, mais la main-d'œuvre est éthiopienne. C'est juste la mondialisation ou c'est plus grave que ça ?
Ouais, en fait, c'est la mondialisation à la chinoise. C'est ça qui nous a frappé en Éthiopie. C'est qu'on va en Éthiopie, on se dit, bon, bah voilà, moi j'avais l'idée que bon, dans pas mal de pays, quand je sais pas, on arrive, on se dit que le modèle, c'est le modèle américain. Bah, en fait, là, non. On rencontre ce contremaître. Lui, son modèle, c'est Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba et c'est l'entrepreneur à la chinoise, c'est le développement à la chinoise, c'est les méthodes de travail chinoises et c'est ça finalement qui fonctionne. Et soit dit en passant sur l'histoire du client américain, c'est ce qui permet aussi d'éviter les mesures de rétorsion commerciale, puisque l'usine n'est pas en Chine, elle est en Éthiopie, elle est en Afrique.
Mais est-ce qu'ils vont subir, les Chinois, les mêmes choses qu'ont subi les Occidentaux, à savoir que s'ils font fabriquer leurs objets en Éthiopie, où le coût du travail est 10 fois moins cher qu'en Chine, ouais, du coup, c'est les Chinois eux-mêmes qui vont en pâtir?
Alors, il y a ce risque aussi, effectivement, même si l'objectif des routes de la soie, c'est de faire sortir les entreprises chinoises, d'exporter le travail, en fait, ça donne aussi des débouchés, beaucoup plus de débouchés qu'avant pour les entreprises chinoises notamment. Donc ça fait bosser finalement beaucoup plus de monde, même si effectivement le travail à bas coût qui était jusqu'à présent réalisé en Chine, enfin il y a encore 20 ans, aujourd'hui n'est plus et l'est ailleurs, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est.
Il n'y a pas besoin d'aller en Éthiopie, au Sri Lanka ou en Grèce pour voir l'étendue de l'Empire chinois. En France, les Chinois mettent la main sur des terres agricoles. Racontez-nous ce qui se passe à Thiel-sur-Acolin, c'est dans l'Allier.
Alors, à Thiel-sur-Acolin, il y a eu l'achat de 1700 hectares de terres que personne n'a vu venir. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un montage juridique qui a fait que les élus, les responsables agricoles ont vu dans le journal que le notaire avait signé l'acte de vente et c'était fini parce qu'en fait, ils ont réussi à rentrer dans une faille juridique un peu compliquée. Mais en fait, ça montre que...
Elles vont devenir quoi ces terres ?
On ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir, c'est du maïs. Voilà. Ouais. Il y a aussi 900 hectares dans l'Indre, pareil. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la grande photo, quoi. C'est-à-dire que les terres agricoles, c'est pas seulement en France, mais c'est partout dans le monde. Et pour la Chine, en fait, c'est aussi une manière de se projeter dans 50 ans en se disant, voilà, on aura peut-être besoin d'avoir ces terres-là pour plus tard, pour l'avenir. C'est une manière pour eux de préparer l'avenir, en fait.
Je vais donner le chiffre que j'ai piqué dans votre doc. Pékin a 17 millions d'hectares de terres partout dans le monde. Chine, OPA sur le monde. Documentaire à voir ce soir dans le cadre de la soirée spéciale C'est dans l'air sur France 5 à partir de 20h50. Ensuite, il y aura un débat en direct dans lequel seront abordés les derniers événements autour du coronavirus. Merci beaucoup, Walid Berissoul,
à bientôt,
d'être venu avec nous ici. Merci. Sur Europe en direct.
Stéphane Rothenberg est notre prochain invité avec une double actualité puisqu'il présente Top Chef qui redémarre demain sur M6 et Pékin Express qui fête ses 15 ans. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Stéphane Rothenberg.
Bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour à tout le monde.
Et vous êtes animateur, l'une des stars de M6 et vous avez une double actualité. Vous avez Top Chef qui reprend demain et oui. Pékin Express, ce sera dans une semaine exactement à l'antenne, mardi 25. Mais d'abord Top Chef, c'est la saison 11 qui va démarrer et l'actualité immédiate, où en est la gastro? La finale a dû être annulée. Racontez-nous ça.
Oh oui, c'est une péripétie, mais c'est vrai que l'un des candidats a une petite gastro juste avant, mais elle a été diagnostiquée quelques minutes avant qu'on démarre.
Ouais.
Et le médecin dit voilà, il ne peut pas cuisiner parce que derrière, on peut contaminer les dégustants.
Ouais.
Les 100 bénévoles de la Croix-Rouge qui chaque année désignent le gagnant. Et donc, arrêt de tournage, recalage. Alors là, vous imaginez tout ça, il en était 110 ou 120, je crois. Et voilà.
Elle est frais, parce que ça coûte cher. C'était au Georges V, je ne me trompe pas.
C'était à l'hôtel Georges V qui a retrouvé une date. Il faut caler tout le temps, il faut caler 110 personnes. Que ce soit des chefs aux caméramans, en passant par les journalistes, et demander à l'assureur de bien regarder son contrat et de lui rappeler qu'effectivement, ça fait partie des clauses. Et que voilà, bon, et puis une semaine après, il était en pleine forme,
d'accord,
et c'est parti.
Et vous avez été remboursé.
Alors, si vous voulez. Sinon,
connaissant Nicolas Taverneau, je pense que l'assureur a payé.
Notre directeur général, qui effectivement était en fusion et rentré dans le solde avant, je l'ai revu une semaine après, il était jovial, j'ai compris que les choses étaient rentrées dans l'ordre.
Top Chef, saison 11, il y a des nouveautés, comme chaque année évidemment, mais il y a également un petit nouveau dans le jury qui remplace Jean-François Piège. Il s'appelle Paul Perret. Qui est Paul Perret ?
Alors Paul Perret, c'est un chef français qui est parti en Chine il y a quelques années, qui a ouvert plusieurs restaurants, dont un qui s'appelle Ultraviolet. C'est un restaurant très particulier à Shanghai, puisqu'on ne connaît pas l'adresse. Ce sont les dix convives de la journée, du soir, sont emmenés en voiture dans un endroit secret et ils vivent une expérience incroyable.
C'est vrai, j'ai pas cru. Attendez, ouais. Écoutez, dans Top Chef, pardonnez-moi, la présentation de Paul Perret.
Son restaurant à Shanghai, dont un seul chauffeur connaît l'adresse, offre une expérience unique.
Il n'y a pas un seul chauffeur dans Shanghai qui connaît l'adresse d'un resto. C'est pas possible, arrêtez.
C'est très particulier, mais ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'assiette. C'est effectivement, c'est un restaurant où il y a des sensations olfactives, il y a des projections lumineuses, il y a des choses comme ça. Il a été élu meilleur restaurateur du monde en 2018, il est 3 étoiles. C'est un type incroyable. Et c'est vrai que ce n'était pas facile de remplacer Jean-François Piège, ouais. Donc il fallait quelqu'un à la hauteur.
Et on va le reconnaître parce qu'il ressemble absolument à rien. On dirait un gars qui vient faire des travaux. Il a une casquette, il a des lunettes. Non mais il n'a pas le grand chapeau. Majestueux, il est en basket.
Oui, alors,
non, mais c'est un personnage.
C'est un personnage.
Il faut le raconter. On fait de la télé,
non,
c'est un spectacle.
C'est
et il y a du storytelling.
Non, mais
il faut
vrai.
Le dire.
C'est un personnage. Il est à part. Il a son monde. Il a sa casquette vissée sur la tête. Il est arrivé dans l'émission. Il a été un peu bizuté gentiment par les autres chefs parce que c'est vrai qu'il était. Voilà, c'est un grand chef, mais il est débutant en télévision. Mais voilà, ça se passe bien.
Il faut le reconnaître. La présentation des chefs est hyper appétissante. On écoute.
Cette année, pour juger les candidats, nous avons invité les chefs les plus innovants au monde, reconnus par leur pair. Ceux qui bousculent les codes en créant de nouvelles sensations. Par leur technique.
Vous avez osé présenter un plat brûlé dans un palace?
Parce que je trouve que là, on arrive à extraire ces goûts de légumes qui sont absolument incroyables.
Par leur démarche engagée.
chef, vous cuisinez tout le poisson de la tête à la queue.
Un bon cuisinier ne jette rien.
Ou encore par le concept atypique de leur restaurant.
Dans le restaurant de Sébastien, l'entrée, le plat, le dessert sont sucrés.
Ce ne sont que des desserts. Des entrées desserts, des plats desserts et des desserts desserts.
Gagan, Anand, vous avez changé la manière de déguster.
Il faut lécher l'assiette, comme un chat ou comme un chien.
Mais Céline Dacosta, qui est une maman, elle a dit quoi ? On lèche l'assiette, il lèche l'assiette. J'ai vu l'émission, il lèche l'assiette. Vous pouvez pas regarder cette émission avec vos enfants, ils vont faire pareil.
Ils vont pas comprendre.
On a pris des chefs un peu décalés, un peu dingues, ou même simplement des grands chefs qui ont changé. Laurent Petit à Annecy, il a pris les poissons en condiment. Il fait que des assiettes de légumes, il est incroyable. On a pris cette année des chefs qui font exploser les codes de la cuisine.
Et vous demandez à chaque chef de concocter une épreuve bien à lui. Exemple Fréchon, qui est le premier chef qui a proposé un plat brûlé dans un 3 étoiles. Il a demandé aux candidats de brûler un plat. Et Paul Perret a demandé aux candidats de condenser une recette parce que lui, c'est ce qu'il fait. Mais là, ça va un peu loin. Par exemple, il y en a un qui a choisi les spaghettis bolognaises. Écoutez sa méthode pour les condenser.
Pour cette épreuve, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire ?
La pâte bolognaise. Pour la pâte bolo, il faut les tomates, les carottes, les oignons et la viande hachée.
Comment tu vas en faire une version minimaliste ?
Je vais déshydrater en fait la pâte bolognaise. Je vais réaliser une poudre de bolognaise et à côté, je vais faire une eau au goût de bolognaise. Donc, je vais essayer de concentrer ce goût de la pâte bolognaise dans une poudre et dans une eau.
Donc ce sera du liquide et de la poudre.
Du liquide et de la poudre, oui.
Mais franchement, des spaghettis bolognaises déshydratées au lieu de profiter des tomates fraîches, des carottes fraîches, oignons frais, c'est tout ce qu'on déteste. Mais franchement, mais Stéphane Routemer, pourquoi pas pourquoi pas des bolinos ? Franchement, vous êtes devenu fou.
Non mais alors, après 10 ans de Top Chef, on est toujours sur l'excellence, la tradition, etc. C'est vrai que voilà, il faut un thème directeur chaque année.
Et là, le thème c'était on va faire n'importe quoi.
Non, c'est pas vrai, mais c'est l'audace. C'est effectivement, on est toujours surpris. Vous savez quand on a des chefs qui cassent les codes. En leur temps, chacun des grands chefs d'aujourd'hui qui sont installés ont cassé des codes. Hein, parce que c'est vrai que la cuisine évolue quand même beaucoup. Elle évolue vraiment beaucoup. Hein.
Ouais, mais l'affaire des bolinos, des bolognaises déshydratées.
J'ai pas dit qu'il allait gagner l'épreuve. Hein, parce que voilà, parfois, il y a effectivement, les candidats, ils essaient des trucs et parfois, ils réussissent pas. C'est autre chose.
Ouais. Un mot, ça marche bien, Top Chef.
Mais oui, monsieur. Ouais. Et tant mieux.
De toute façon, c'est très simple. Je veux dire comment ça marche sur M6. Si une émission ne marche pas, elle n'est plus là. The Bridge n'est plus là. Au revoir. Top Chef, meilleure saison depuis 2013.
Eh oui, on tient le choc. Puis c'est vrai qu'on est beaucoup regardé en replay. Et puis les Français aiment la cuisine. Qu'est-ce que je vous dise ? Voilà, ça marche.
Hein. Ouais, peut-être pas déshydraté. Vous restez avec nous, il faut qu'on parle de Pékin Express. Là, il n'y a pas eu de gastro.
Oui, Stéphane Rothenberg est notre invité. Avec lui, on parle de Top Chef qui redémarre demain soir sur M6. Et puis, on va aussi parler, comme vous l'avez dit, Philippe, de Pékin Express dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Stéphane Rothenberg qui est notre invité ce matin dans Culture Média, Philippe, pour parler de sa riche actualité.
Oui, il y avait Top Chef, on en a parlé. Il y a Pékin Express qui va démarrer mardi prochain, le 25 à 21h sur M6. C'est exactement dans une semaine tout pile. Vous fêtez les 15 ans du jeu. Et cette saison, c'est le All-Star Game. Vous êtes revenu aux fondamentaux. D'abord, le trajet. Vous avez reproduit le premier Pékin Express d'il y a 15 ans en allant de Moscou à Pékin. Évidemment, c'était avant l'épidémie de coronavirus. Sinon, Pékin Express avait pensé à un hôpital. Blague à part, la Chine a bien changé. On en parlait avec Walid Berissoul. Oui. Vous débarquez en plein milieu des festivités pour les 70 ans du régime. Et là, vous avez eu des problèmes pour tourner sur place.
Oui, alors c'est vrai qu'on refait cette route d'origine. Pékin Express s'appelle Pékin Express parce que la première saison, on allait à Pékin. Après, on ne l'a pas fait. Mais
c'est qu'on n'est pas complètement idiot aussi. Ça ne nous avait pas échappé. Hein.
Okay. Et donc, pour les 15 ans, on a fait une saison un peu événementielle, un peu plus raccourcie avec quelques candidats qui ont marqué les saisons.
J'ai parlé des candidats, mais racontez ce qui s'est passé en arrivant.
Non, voilà,
ils ne vous ont pas laissé tourner.
Non, voilà. On avait traversé la Russie. Et puis après, effectivement, l'autorisation a sauté. On a dû rentrer en France, retourner plus tard. On a arrêté Top Chef pour que je puisse repartir tourner Pékin. Ouais. Mais et finalement, ils ont eu un moment où ils se sont dit « Ouh là là, 17 caméras en liberté pendant les 70 ans, on ne veut pas ». Donc l'autorisation a sauté pour revenir quelques jours plus tard. Voilà.
Alors on verra quand même la Russie, la Mongolie intérieure, la muraille de Chine et l'émission va aller à son terme. Le casting, alors qui sont les candidats ? Je l'ai dit, c'est All-Star Game.
Oui, c'est ça. En tout cas, il y a des candidats qui ont marqué la saison. Il n'y a pas forcément des candidats vainqueurs. C'est candidats qu'on a eu envie de revoir, des saisons 3, 6, 12, 14, etc. Et allez-y les amis, donc des très bons en revanche, des candidats qui savent avancer, qui savent obtenir l'empathie des locaux pour avancer et passer une bonne nuit.
Et l'empathie des téléspectateurs, et pour passer une bonne nuit, vous allez me dire s'ils ont passé une bonne nuit, parce qu'il y a aussi du casting, par exemple, vous avez mis ensemble Ingrid et Fabrice, et là on dirait que vous avez composé un couple. Pour l'île de la Tentation, elle a 36 ans, elle est toujours célibataire, lui il a 50 ans, il est toujours célibataire, chacun des deux veut rencontrer quelqu'un, bim, comme par hasard, ils les remettent ensemble, elles cherchent un mari. Ils ont passé des bonnes nuits.
Oui, alors, c'est vrai que c'est pas le but de... On fait pas des coups. Parfois, on en brise, d'ailleurs, bien involontairement.
C'est pas vrai.
Non, mais parce qu'on s'engueule un peu sur Pékin Express parfois, mais pas beaucoup, finalement, tant que ça.
Ah, mais là, ça s'engueule.
Oui, bah un petit peu, parce que voilà, il y a des tensions. Mais on prend des gens surtout qui s'aiment. C'est des binômes qui ont un lien très fort.
Non,
et
non,
d'ailleurs,
non.
Les gens qui vont loin dans Pékin Express, c'est parce qu'ils s'aiment. Là, c'est différent. C'est les inconnus, mais ils s'engueulent pas trop.
Non, c'est vous avez choisi ces gens parce qu'ils sont, comme disait ma grand-mère, ils sont complètement toc-toc. La première épreuve, c'est dans le métro de Moscou. Ils ont tous les deux un bandeau sur les yeux, je vous raconte. Et un des deux enlève le bandeau et celui qui a les yeux guide l'autre.
Exactement.
Voilà. Ils sont en stress, mais comme si leur vie en dépendait. Ils commencent à s'engueuler. Ils n'ont pas fait 200 mètres qu'ils s'engueulent. Écoutez ce que dit Cécilia.
Mon challenge, c'est pas gagné. Moi, mon challenge, ça va être rester calme, là. Pour Mathieu.
Voilà. C'est juste rester calme, son challenge. Je me dis, mais comment vous les avez choisis? C'est tous des fous.
Alors d'abord, non, vous allez voir.
Vous allez
alors,
voir.
Ils sont un peu, par moments, émotifs.
C'est une chose qui arrive. Ils sont méchants, ils sont sadiques.
Les candidats ?
Ouais, dans le métro de Moscou, il y a un type qui est là, il est avec sa nana. Ils n'ont pas fait 20 mètres, bon, elle se prend un pilier en pleine poire parce qu'elle a le bandeau sur les yeux.
C'est une course.
Alors, et il lui lâche la main.
Non, mais il faut reconnaître que quand il y a une course, il y a une compétition et qu'il faut gagner parce que sur Pékin Express, le dernier est éliminé chaque semaine. Ouais. Et ben forcément, ça enflamme un petit peu les sentiments.
Ouais.
Mais vous savez, non, mais je blague pas. Ces gens au départ fondamentalement s'aiment, mais ça se voit. Je suis pas d'accord. Ils s'engueulent, mais ils s'aiment.
Alors il y a des épreuves qui m'ont paru surréalistes. Par exemple, il y a l'épreuve de l'autostop. Ils sont au centre de Moscou, ils arrêtent des voitures et ils arrivent à trouver une bagnole qui les emmène à 50 bornes de là. Mais je me dis, mais c'est impossible. On serait à Paris, c'est impossible d'arrêter une voiture qui nous emmène à Orléans ou à Montargis. C'est impensable, c'est truqué, c'est pas possible.
Mais jamais.
Non, mais c'est pas possible.
Les gens se déplacent partout dans le monde. Et effectivement, alors ensuite, il faut effectivement être habile. Vous vous mettez sur la bonne route qui va effectivement à l'extérieur dans la bonne direction. Tous les gens qui font du stop savent l'art de faire du stop, savoir où se positionner,
non,
dans quelle direction.
Ils sont en plein centre de Moscou, ils sont sur la place rouge.
Mais oui, mais ensuite, négocier.
Écoutez, mettez-vous, Rothenberg, place de la Concorde, essayez d'aller à Montargis. Stop,
et bien vous seriez surpris, Philippe, je vous assure. D'ailleurs, il y a un vrai débat sur faire ou non Pékin Express en Europe.
Ouais.
La générosité n'est pas réservée aux autres. Je suis absolument persuadé que des candidats de Pékin Express, si un jour Pékin Express avait lieu en France, auraient la même capacité à se déplacer. Et tous les routards du monde, tous les gens qui font du stop dans le monde, vous détromperaient. On peut avancer. D'ailleurs, j'ai demandé les pays où c'est le plus difficile, je vais vous le dire. Il y a deux pays dans le monde où c'est très difficile parce que c'est interdit. C'est l'Amérique et l'Australie, où on a le droit de faire du stop que dans les stations-service. En dehors de ces deux pays qui sont des singularités uniques, dans le monde entier, le stop est une manière de se déplacer. Et vous inquiétez pas, les gens font des bornes.
Vous allez partir bientôt pour le nouveau Pékin Express.
Oui.
Donc on sait qu'il y aura une autre saison.
Pour l'instant, oui.
Voilà.
C'est sûr d'ailleurs. Oui.
Quel autre projet sur M6
Non.
Vous m'avez dit, j'ai un énorme truc, mais je peux pas le dire.
Non,
alors allez-y, dites-le en direct, profitez-en.
Fin avril. Voilà.
Fin avril, un gros projet sur M6.
Je le dirai.
Un jeu d'aventure.
Voilà, je le dirai. Passez à votre question suivante.
La question suivante, c'est merci Rothenberg, vous êtes
merci,
content d'être venu.
Mandel,
Top Chef, c'est demain, Pékin Express, mardi 25 sur M6 à 21h. J'adore ce son.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, mais avant, place aux digressions des rats d'auteur, on retrouve notre duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien. Bonjour, Gilles.
Bonjour, Stéphane.
Mardi 18, Enzo Ferrari.
On célèbre sa naissance ou sa mort?
Et sa naissance.
Et il est mort pourtant. C'est magnifique.
Et c'est ça qui est dingue.
Vous avez déjà conduit une Ferrari dans votre vie?
Oui.
Et alors, c'est quoi? C'est bon?
Oui, c'est bon.
Vous êtes monté à combien?
Bon, on était à deux dans la voiture.
À combien? À 250, quoi.
Bah, je peux pas vous répondre à ça maintenant, sinon je vais me faire coffrer.
Vous avez tué du monde?
Enfin, Gilles, c'est quoi cette question? Partons un peu sur la culture.
Très bien, oui.
Michel-Ange.
Oui.
Michel-Ange est mort un mardi 18.
Il est mort riche.
Il est mort riche. C'est quoi, il est mort riche? Il est mauricien?
Riche.
Ah, il est mort riche.
Ça coûtait fortune, les tableaux de Michel-Ange aujourd'hui. Il a dû se faire pas mal de galettes.
Il n'est pas connu comme étant un type blindé, Michel-Ange.
Pourtant, un tableau de Michel-Ange, ça ramasse dur.
Est-ce qu'on peut acheter un tableau de Michel-Ange aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a une œuvre de Michel-Ange chez lui?
C'est une bonne question.
C'est une très bonne question, Gilles, merci.
Il y a des noms comme ça qui portent en eux tout.
Ouais. Et puis, il y a des gens comme ça qui portent en eux rien. Vous avez vu la chapelle Sixtine à Rome?
Quand j'étais gosse.
Vous avez fait plein de trucs quand vous étiez gosse. Hein.
Tour Eiffel, chapelle Sixtine.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Magnifique.
Hein. C'est vraiment intéressant. Je suis pas certain qu'on puisse encore la visiter aujourd'hui.
À cause de la buée de l'homme. À propos de...
À propos. C'est au fond à droite, la porte des popos. On a fait le tour avec Michel-Ange.
Michel-Ange, que dire?
Rien. Michel-Ange. Vous êtes un peu branché religion?
Ouais, un peu comme ça.
Si mais... je vous dis Luther.
Comment?
Luther.
Oui, d'accord, protestant, Calvin.
Oui, alors quoi? Mais développé, vieux.
La loi, la truc, la machin.
Ce qui est drôle quand même, c'est Martin Luther.
King?
Oui, Luther s'appelait Martin.
Luther, c'est un nom protestant. Le père Martin King a appelé son fils Martin en hommage à Luther.
Et Martin Luther, il l'a appelé Martin.
Parce que lui-même devait s'appeler Martin.
En l'honneur de Jacques. À cette époque-là, ils luttèrent tous, sont les militaires. Bonsoir. Gilles. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous êtes croyant ?
Non.
Vous ne croyez pas en quoi alors du coup ?
En rien.
C'est ça, vous croyez en rien ?
Ouais.
Donc vous croyez ?
Oui, forcément.
Moi je suis pratiquant non-croyant.
Vous êtes pratiquant non-croyant ? Vous êtes en plein dans le symbolisme.
S'il n'y a plus de symbole, il n'y a plus rien.
C'est compliqué votre histoire. Vous pratiquez sans croire.
Parce que je pratique la culture de la religion et pas la religion elle-même.
D'accord.
Vous me suivez ou pas ?
Mais très bien.
Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens sous terre que des gens sur la terre ?
Indiscutablement en dessous, c'est quand même
hyper flippant, non ?
Ils sont même plus en dessous, ils sont devenus poussière. C'est eux qui font pousser les radis. Grâce à eux, on se nourrit.
C'est terrible quand on pense à ça.
C'est sur leurs cendres et leurs os que poussent les radis, les betteraves et les poireaux.
Ils sont tous morts en fait.
Non, ils sont pas tous morts.
Si demain je vais vous parler d'autres morts tout à fait désolantes.
Moi, je vais vous parler de vivants demain.
Parlons vivants.
Ah bah oui.
Au revoir Gilles.
Au revoir.
C'était Les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus. Feuilleton quotidien retrouvé dès demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Patricia Petitbon. La cantatrice va venir nous parler de son nouvel album L'amour, la mer, la mort. Très joli titre. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, le meilleur des sorties ciné de demain. Demain, c'est mercredi, avec 5 films au programme et Mathieu Charrier. Et puis 2 anniversaires dans le monde du jeu vidéo, les 20 ans des Sims et les 15 ans de World of Warcraft.